Alors, Dusk of Delusion, on s'était parlé, enfin j'avais parlé avec Mathieu, je pense, il y a 2 ans, pour la sortie de Funfair. Alors, Dieu sait que lui en particulier, mais bon, vous avez tous pas mal de projets, et pourtant, vous avez, on sent que vous avez voulu remettre, enfin, battre le fer tant qu'il est chaud très rapidement, et vous remettre à ce deuxième album. J'ai tort, ou enfin, comment s'est passée la dynamique de groupe?
Eh ben, en fait, la dynamique de groupe s'est passée que sur le premier, on a essayé de le faire assez rapidement. C'est vrai que pour un groupe qui commence en septembre 2016, sortir un album en mars 2018, c'est relativement rapide. Et parce qu'on voulait vraiment aller sur la scène le plus rapidement possible et que les gens aient un support audio à écouter s'ils appréciaient, ce qui a été le cas d'ailleurs, parce qu'à chaque fois qu'on faisait des scènes, les gens appréciaient vraiment et n'hésitaient pas à prendre le CD. Donc après, on s'est dit, une fois qu'on a fait ce premier album qui a été, alors, pas du tout bâclé, hein, mais qui a été fait assez rapidement, on s'est dit, on va en faire un deuxième, mais un peu plus, avec, en prenant un peu plus le temps de le réfléchir. Du coup, on a pris, sachant que sur le premier album, il y avait déjà quelques morceaux qui étaient composés, bah, on avait déjà une petite base, et puis c'est parti, ça a été assez... assez simple de réfléchir tranquillement dessus.
Ok. Si on prend justement la tournée après Funfair, donc il y a eu quand même pas mal de dates, plus d'une trentaine, avec peut-être
pas loin de 40.
Avec peut-être le point d'orgue pour vous, surtout Laurin, la date à Nancy en première partie de mars.
Ah bah bien sûr.
Tu peux nous en parler un peu?
Ça a été l'apothéose. Alors c'est un beau concours de circonstances parce qu'on a été donc annulé sur une date à Thionville. Et qui a été assez relayé sur les réseaux sociaux. Massisteria nous a contacté en disant « Ouais, on connaît, ça nous est fait arriver il y a 17 ans. » Et du coup, Benoît a relancé un petit peu le truc. Et comme il passait en Lorraine, ils ont dit « Bah, on aimerait bien que vous jouiez en première partie. Voilà, on vous donne l'opportunité de vous réexprimer totalement. » Et là, ça a été, forcément, on était super heureux parce que déjà, c'est une belle scène, notre canal, c'est une salle des musiques actuelles. Et jouer en première partie de Massisteria avec le public de Massisteria qui est juste incroyable, et avec Massisteria derrière qui est juste incroyable aussi, ça a été vraiment une super opportunité qu'on a très 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 envie de réitérer, quoi.
D'accord. Bien sûr, la première chose qui vient à l'esprit, c'est la belle opportunité, c'est vrai. Par contre, vous pouvez peut-être potentiellement, même si musicalement vous n'êtes pas très éloigné, avoir un public assez différent. Il n'y avait pas d'inquiétude sur l'accueil du public?
Non, on se pose pas trop de questions sur l'accueil du public, parce que à chaque fois qu'on joue, franchement, alors, c'est sans jeter de fleurs, mais on est, on donne tout, quoi. Un peu comme Massisteria qui, quand il joue, il donne tout. Il se lâche, il joue pour le public, nous, c'est pareil, on joue pour le public. Donc, on donne tout, donc, il y a des fois, on a joué, dans la tournée, on a joué, hélas, devant 2 personnes, mais on a tellement donné, ces 2 personnes, comme s'ils étaient 1000 devant, que, il n'y a pas une différence, et les personnes ont apprécié, justement, cette, absence de différence. Du nombre de publics, ça ne joue pas le nombre de publics. Ça joue aussi dans le sens où, c'est ce qu'ils voulaient avoir pour nous depuis la scène, mais ça ne changera pas notre prestation scénique. C'est-à-dire que les gens ont fait des déplacements, on joue pour eux. Et je pense que Massisteria fonctionne de la même manière. Donc, ils n'ont pas de problème.
Ouais. C'est le souvenir que tu garderas de cette tournée ou tu veux évoquer autre chose?
Ah, ça restera quand même le gros souvenir parce que c'est une des plus grosses scènes que j'ai fait et je pense que la plupart du groupe, une fois qu'on a vécu ça, on n'a qu'une envie, c'est de refaire ce genre de scène.
D'accord. La plupart d'entre vous, vous avez quand même pas mal d'expérience, mais avoir peut-être la mise en place, avoir des groupes très expérimentés qui ont beaucoup de bagages comme Mass, travailler, est-ce que ça apprend des choses?
Clairement, oui. On avait déjà, donc, comme tu dis, nous, on a déjà un bagage. Donc on sait très bien que, au vu de ce qu'on a vu comme groupe, on sait que ce genre de choses, enfin, travailler la scène, c'est très important. Et c'est ce qu'on fait, nous, en fait, on répète. On travaille les morceaux pour qu'on n'ait plus à se poser une seule question sur les morceaux et qu'on puisse travailler vraiment. Alors, le show, entre guillemets, parce qu'on ne peut pas non plus tomber dans un show routinier qui est réglé de la première minute à la dernière minute du show. On veut laisser une part de... on est là, on s'éclate et on fait les cons sur scène, quoi. Donc c'est du show qui est réglé parce que musicalement on se règle. Par contre, on se laisse une liberté d'improvisation sur scène.
D'accord, d'accord. Finalement, on pourrait vous rétorquer à la lecture et à l'écho de des paroles et à l'écho de Watcher 6 que vous avez un sens du timing assez bizarre. On pourrait dire que la logique aurait peut-être voulu que cet album il existe en 2018 quand vous avez démarré, pour pouvoir au maximum jouer sur l'anniversaire entre guillemets de la fin de la Première Guerre mondiale, et vous aimez bien peut-être, je sais pas, peut-être sortir des sentiers battus et faire ça 2 ans plus tard sans pouvoir entre guillemets bénéficier du buzz autour de la date.
Non, alors c'est pas une question de ça, c'est parce que très franchement, en fait, l'album est né en 2018. C'est-à-dire qu'à la tournée du Funfair, le 23 avril, pour être très précis, on avait une date, un day off à Paris, et on s'est retrouvé dans un bar à boire un coup, et on a commencé à réfléchir au concept du prochain album, parce qu'on est très concept album. Et il s'est avéré qu'avec cette discussion-là, on est arrivé sur le thème de la guerre 14-18, et alors pas vouloir raconter vraiment la guerre, mais raconter les émotions des personnages qui ont traversé cette guerre. Donc c'est arrivé en 2018, en avril 2018. Donc finalement, d'accord, quelque part, on était dans le centenaire de cette guerre, mais le temps que ça se mette en œuvre, en effet, il y a eu un petit décalage de 2 ans.
Okay. Mais
c'était pour mieux tomber après le film de Sam Mendes, c'est pour ça.
Oui, ça, on va y venir. Je me disais, Le thème de la Première Guerre mondiale, donc comme vous disiez potentiellement en 2018 quand vous en avez discuté, vous pouviez entre guillemets en regardant un peu les médias, etc., baigner là-dedans. Est-ce que on sait que l'Est de la France a particulièrement été impacté, peut-être aussi des histoires familiales d'un des membres du groupe qui a fait ressortir ça, ou...
Alors, il y a plusieurs choses en fait. Déjà, la chose principale, c'est que c'est Benoît qui nous a amener ce thème, Benoît le chanteur, qui lui est prof d'histoire et passionné de cette période-là.
D'accord.
Donc du coup, ça, c'est lui qui nous a vendu le concept. C'est lui qui nous a vendu un petit peu ce côté, moi j'aimerais bien en parler. Et après, on a tous, forcément, il y en a beaucoup qui font partie de la Lorraine, qui est très empreinte justement de cette histoire, et ça se voit rien qu'on se balade en Lorraine. Forcément, ça nous parlait. Donc, on s'est dit, moi, j'ai un grand-père qui a fait la bataille de Verdun, qui a des médailles dans la maison de nos parents, il y a des médailles qui est exposée. Donc, tout ça, c'est des choses qui nous parlent. Même Claude, qui a des origines plutôt corse, avait aussi un grand-père qui a fait, un arrière-grand-père plutôt, qui a fait de la guerre et tout ça. Donc, tout ça, c'est des choses qui nous parlent, en effet. Et qu'on s'est dit, oui, et puis ça doit parler à beaucoup de personnes, finalement. Et, même en allant au-delà, il faut que ça parle même à ceux à qui ça ne parle pas. C'est-à-dire que cette espèce de devoir de mémoire doit être perpétué de génération en génération, pour pas qu'on oublie qu'il y a eu des passages très atroces et qu'on ne veut pas les revivre, ces passages atroces-là.
D'accord. Ok. Et donc tu t'avais l'air de partiellement répondre, mais... donc finalement, vous aviez à la sortie de Funfair peut-être quelques compos inaboutis ou quelques idées, mais quand même assez rapidement le thème est tombé, et donc vous avez composé connaissant le thème.
Alors moi, même si ça paraît bizarre, en tant que bassiste, je compose beaucoup pour Dusk of Delusion. Et du coup, dès que je prends un instrument, je compose. Et donc j'essaie de me limiter, mais c'est vrai qu'à la sortie de Funfair, j'avais déjà 4 titres qui étaient composés. Donc ils m'ont dit attends doucement, parce qu'on aimerait bien faire en sorte que les titres soient en osmose avec le thème abordé. Donc sur les 4 titres, tous ne sont pas été sélectionnés. Et du coup après on a travaillé sur les émotions qu'on voulait retranscrire, les histoires qu'on pouvait raconter, et quelle ambiance musicale on pouvait créer dessus. Et donc là, on a essayé de coller un petit peu déjà ce qu'on avait déjà. Il y en avait quelques-uns qui collaient parfaitement. Et puis après, on a composé d'autres titres qui sont vraiment issus de l'idée et du concept de l'album. C'est-à-dire que, par exemple, Verdun, c'est parti de la bataille de Verdun, du désespoir, des différentes les différentes phases par lesquelles passait le soldat qui était dans la bataille de Verdun, et pour créer justement cette chanson, qui est quand même assez atypique dans l'album.
Mmh. D'accord, d'accord. Si on regarde les crédits de l'album, on voit que, la musique en particulier semble avoir été donc un travail à trois. Est-ce que vous êtes un peu partagé le boulot ou l'un est venu avec une idée et chaque fois vous bossiez tous les trois sur le titre jusqu'à sa forme finale?
Non, alors en fait ça dépend des morceaux. Il y a des morceaux où il y en a qui venaient avec une idée quasiment finalisée et en fait c'est plus du réarrangement de la compo. Il y a eu un ou deux morceaux qui étaient vraiment dans la conception, on va dire collégiale. On a conçu notamment, comme je dis, Verdun, qui a été conçu à partir de l'idée, donc de l'ambiance qu'on voulait, et en fonction de chaque ambiance, de chaque partie, on créait un riff qui allait dedans. C'est pour ça qu'elle est assez propre, parce qu'il n'y a pas deux fois le même riff. Mais sinon, on est dans une conception où il y a une idée qui est proposée, quasi finalisée, et qui est modifié par chaque membre du groupe qui met sa petite patte, quoi.
Si on prend un exemple, après, d'après ce que j'ai lu, mais peut-être à tort, tu me confirmeras ou pas, par exemple, tu es très à l'origine de Letters aussi.
Ah, oui, c'est moi qui l'ai... C'est une des chansons qui avait été composée pendant la tournée Funfair. Celle-là, c'est une...
Une des quatre.
Une des quatre qui a été composée. Il y a celle-là, Lady Space, et, pas de bêtises, Serbian's Gate.
Truc en russe, hein, non?
Et je crois que non, je crois que il y en a une autre, mais je crois qu'elle n'a pas été retenue. On a pareil comme pour le premier album, on a composé plus de titres que ce qui figure sur l'album, et on les choisit un petit peu, voilà. Si ça colle pas, tu vois, par exemple, ça collait avec aucun sentiment ou pas avec ce qu'on avait envie de faire, donc du coup, voilà, c'est. N'hésite pas à chiffrer une chanson si elle ne va pas.
D'accord. Et donc en particulier, Letters to Sea, avec quoi t'es arrivé vis-à-vis de tes camarades? Avec quel état de finalisation était le titre?
Musicalement parlant. Moi, en fait, je compose. Alors sur celle-là, c'est fonctionné comme sur le premier album, c'est-à-dire que j'ai composé la basse, j'ai composé les parties guitare, donc les deux guitares, et la partie batterie. Je ne m'occupe pas du chant et de la ligne de chant, ça, c'est pas fait.
D'accord.
Je m'en occupe pas. Donc je compose en fait la trame, mais après je suis complètement ouvert à toutes les modifications. C'est-à-dire que moi je pose une trame de batterie, s'il me dit non, moi je verrais bien plutôt ça, bon, on l'essaye. J'ai composé les guitares, après je suis pas guitariste, je suis bassiste. Donc c'est plus ou moins joli, plus ou moins bien fait, il y a peut-être mieux à faire, donc... Je suis complètement ouvert, et on est complètement ouvert dans le scope du jeu à toutes remarques qui peuvent modifier en mieux une chanson.
Mais donc ce que tu as envoyé, c'est une démo? Enfin, c'est un... Ou c'est une...
Oui, c'est une démo. C'est une démo, parce que j'ai pas le niveau guitaristique des deux guitaristes, donc de toute façon, ça...
Non, mais je veux dire, t'as envoyé un fichier audio...
Oui, c'est ça.
En faisant une proposition, et puis après, vous avez discuté sur cette base.
Ça. Je fais un fichier audio. En fait, je fonctionne beaucoup avec Mathieu, le guitariste.
Ouais, bien sûr.
Je fais un fichier audio, je fais les partitions de ce que moi j'ai pensé. Mmh. J'envoie ça à Mathieu et il enregistre tel que je l'ai pensé.
D'accord.
Il modifie rien, il enregistre et après, à partir de cet enregistrement-là qui est beaucoup plus propre que si moi je joue la guitare, on part de là et on se dit bah voilà, qu'est-ce qu'on fait? On joue comme ça et on réfléchit, on répète à qu'est-ce qu'on peut modifier. Pour sublimer le morceau, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui va bien, etc. quoi. Mmh. Et c'est arrivé que sur un morceau, le refrain, ça n'allait pas du tout. Quoi. J'avais composé un truc de refrain qui n'allait pas, sur Lady Space par exemple. Et du coup, que j'ai revu la chanson, j'ai recomposé un refrain, et ça a été après sublimé par Nathan qui a dit, attends, si on fait la partie là, si on change comme ça, regarde, ça peut être sympa, et on l'a essayé en répète, et on a changé. Donc après, le morceau vit en répète. Et prend vie.
D'accord. D'accord. Donc effectivement, c'est une base, c'est une base, voilà, de travail,
c'est une base
qui évolue.
De travail, voilà, c'est une base de travail qui évolue jusqu'à arriver. Et elle évolue jusqu'à la fin, hein, jusqu'au mixage, elle évolue. Et tant qu'elle n'est pas sur l'album enregistré, gravé, elle peut encore évoluer.
D'accord. Et donc en parallèle de vous, de votre travail, il y a Benoît qui bossait sur les paroles.
Oui, Benoît bosse sur les paroles. Il nous pareil, la pré-prod, souvent on enregistre donc, sur ce que Mathieu a enregistré, donc la version à travailler. En fait, Benoît vient à la maison ou chez Matt et on enregistre ce que bon, lui il bosse les paroles tout seul. Ça c'est son petit domaine perso. Parce que nous on n'a pas comment dire, on n'est pas bon dans l'écriture des textes. Donc, du coup on s'en occupe pas, par contre il nous propose, il nous fait lire et la plupart du temps bon c'est quand même il écrit quand même plutôt bien, donc on n'a pas trop de choses à redire à part 2-3 petits détails éventuellement, mais sinon donc voilà. Et après il vient, il pose sa ligne de chant, donc là pareil on a notre mot à dire, on peut lui dire bah non attends, essaye de faire ci, essaye de faire ça, mais c'est pareil, ça reste une trame de travail pour avoir une base en fait, pour pouvoir essayer de commencer à réfléchir à des chœurs, à ce genre de choses, et puis après on fait vivre le morceau et le morceau prend sa vraie dimension quand on est en répète, c'est qu'on se dit ouais là on est bon, ça c'est bon, c'est un beau morceau, on peut aller l'enregistrer pour de vrai quoi.
D'accord. Est-ce que vu la thématique, en plus vous vous êtes posé la question de faire un chant en français?
Non, on s'est pas posé la question parce que Benoît se sent pas écrire en français.
D'accord.
Il nous l'avait annoncé dès le début. C'est-à-dire qu'il a dit, moi, je ne suis pas capable d'écrire en français quelque chose. Parce que écrire en français pour un public français, c'est très compliqué. C'est-à-dire qu'on est tout de suite sujet à une critique sur le style littéraire. Qui n'a pas lieu non plus quand on écrit en anglais. On fait pas attention, on fait attention au sens, mais on fait pas attention à la manière dont on pose les mots, alors qu'on fait beaucoup plus attention quand c'est écrit en français. Et ça, Benoît ne se sent pas à l'aise là-dessus.
Ah, c'est marrant, t'as un problème. Enfin, c'est pas idiot, hein, mais t'es un des premiers à l'exprimer comme ça. On pourrait penser que dans sa langue natale, ça serait plus facile, et pour vous, c'est plutôt une difficulté. Parce qu'on dit, on va se faire allumer sur. Parce que c'est pas assez, un niveau de langue suffisant, ou que sais-je, quoi.
Exactement. Bah, écoute, nous, on a fait. Donc, avec Mathieu, on a joué dans un groupe de rock français, Luca. Et on avait les textes étaient écrits en français et les critiques qu'on a eues, c'était vraiment très beaucoup étaient axés sur le texte. Je suis sûr qu'on les aurait fait en anglais, on n'aurait pas eu ce genre de critiques. Donc les gens font beaucoup plus attention aux mots que tu utilises quand tu es en français, aux mots que tu utilises quand tu es en anglais, même si c'est très bien écrit par Benoît en anglais. Et ça se trouve, quand on fait la traduction des textes en français, c'est très beau. Et je pense que les gens feraient beaucoup plus attention à ce qui est écrit si c'était en français que si c'était en anglais.
Non, mais je te dis, c'est pas con, mais maintenant que tu le dis, tu comprends. Je comprends, en plus en France, on aime bien cartonner sur tout ce qui bouge, donc je pense que la crainte est justifiée, mais tu vois, je m'en rendais pas compte, enfin, je ne l'avais pas imaginé comme ça. Ok. Donc tu disais dès le début, vous aviez défini le fait que vous alliez pas avoir un album sur la grande histoire 14-18, le premier conflit mondial, donc tu disais lié autour de sentiments et puis où le point de vue de protagonistes particuliers, que ça soit des anonymes ou des entre guillemets plus célèbres tels que l'assassin de l'archiduc François Ferdinand.
C'est le seul qui est célèbre en fait. C'est la seule personnalité qui est célèbre, on va dire entre guillemets, dans l'album, c'est le seul qui est vraiment nommé. Après le reste, ça peut être n'importe qui a traversé cette guerre, quoi. Parce que cette guerre, elle a touché tout le monde. Et que ce soit un Anglais, un Français, un Russe, un Allemand, tout le monde a été touché par ce qui s'est passé. Donc tout le monde a eu des sentiments. Et nous, ce qui nous intéressait, c'était vraiment surtout les sentiments que les gens peuvent ressentir. Donc, c'est un petit peu ce qu'on avait fait sur le premier album. Dans le sens où on parlait des sentiments que peuvent inspirer certains travers de personnages en les comparant à des stands. Et donc là, c'est un peu pareil. On s'attache aux sentiments des personnages, aux personnages, quoi. Mais qui peuvent être toi, moi, n'importe qui, quoi. On n'a pas de. Après, on voulait pas non plus prendre de parti pris sur les Français, c'était les meilleurs, les Allemands, c'était des cons. Là, c'est vraiment. Tout le monde a vécu cette guerre à sa manière.
Ouais, bien sûr. D'accord.
On voulait rester sur cet esprit-là.
Ok. Au niveau de l'enregistrement lui-même, donc tu disais, tu as bien expliqué toute la phase de préparation. Bon, quand il faut graver tout ça dans le marbre, donc Mathieu, il a son matériel, il travaille de son côté. Et puis bon, et donc pour les autres, vous êtes rentré en studio, donc je voyais à Nancy et à Beauvais, c'est ça?
Beveille,
ouais,
c'est un petit patelin, ouais, c'est un petit patelin. Et si tu veux, en fait, nous, ce qu'on s'était dit, c'est voilà, sur le premier album, c'était pas, alors c'était la partie originale du batteur, c'est-à-dire que c'est lui qui l'avait joué, mais c'était sur joué en midi, et après ça repassait par des samples que lui avait choisi. Mmh. Ça restait assez fidèle, c'est ce que beaucoup de groupes de metal font. Et là, on voulait nous vraiment enregistrer une vraie batterie, c'est-à-dire qu'on voulait changer, comme on avait changé de batteur, notre batteur nous avait dit qu'il est jeune. Et plein de fougue, nous avait dit, moi j'aimerais bien enregistrer la batterie. On dit, ok. Donc du coup, ça impliquait forcément de trouver un studio parce que bah, on n'est pas en capacité de faire de prise batterie. Mmh. Donc on s'est dit, bon bah voilà, il faut trouver un studio. Donc on a trouvé le studio TD qui nous a permis justement d'enregistrer la batterie, la basse et le chant sans contrainte de temps. Donc, ça, c'est un gros luxe.
Oui, oui, bien sûr.
Pour enregistrer en studio. Et bah, du coup, on a fait ça, on a intégré les guitares, et après, bah, on a pu passer à la phase mixage. Donc, ça a été un petit peu long, parce qu'on a eu un petit peu de mal à se mettre d'accord sur le son qu'on voulait. Mais une fois que c'était parti, après, voilà. On est très satisfait du résultat.
T'es parti de Bast, pour ta partie à toi, ça a pris combien de temps?
Moi, j'ai mis 2 jours. Ouais, 2 petites journées, parce que ça commençait vers 10h30, 11h. Et ça terminait à 17h, on va dire des petites tournées.
Avec sur les titres différentes d'alternatives ou non?
Alors, au niveau de la basse?
Ouais.
Alors, oui et non, il y a différents sons que j'ai utilisés, mais sur le système d'amplification, je suis resté sur la même son. Bon, il y avait la chance en studio d'avoir un gros baffle en peg qui m'a bien gonflé le son comme il fallait. Donc j'étais plutôt satisfait parce que moi je joue sur Arqueux, ça m'a permis de mixer un peu les deux et d'avoir vraiment un son dur, quoi.
D'accord. Et tu disais donc modification par rapport donc au son de batterie qui est plus juste des samples utilisés mais une batterie jouée. Toi qui es donc l'autre partie de la section rythmique principale, ça a changé quelque chose pour toi?
Bah, ça a changé oui quand même parce que j'ai dû m'adapter au jeu et à la finesse de jeu de Nathan qui n'est pas la même que celle du Romu, le premier batteur, qui était un peu plus rentre dedans, donc j'avais moins besoin de me caler dessus, alors que Nathan il a vraiment un jeu, en plus il a une petite formation de jazz, donc tu vois, ça amène un petit quelque chose qui est vraiment fin, et quand t'es en section basse batterie, il y a un moment où il faut aussi penser à écouter la batterie et essayer de se coller dessus. À me coller dessus et essayer d'avoir un son qui complète avec son son, et donc c'est au niveau du mixage. C'est là que ça a pris pas mal de temps parce qu'on a beaucoup travaillé sur le son basse batterie, vu que les guitares elles étaient amenées, on va dire, à peu près telles quelles. On a vraiment beaucoup joué sur ce son basse batterie, à essayer de ne pas trop dénaturer le son de batterie pour que ça reste de la batterie acoustique, mais sans non plus rentrer dans un son garage, quoi.
Mmh. D'accord.
Donc il y a eu un bon travail et c'est assez intéressant.
Et alors, on peut être surpris, on se dit, mais pourquoi ils sont allés chercher de faire le boulot du mastering par le bassiste de Marduk, qui s'appelle Magnus Devo Andersson, en Suède? Comment est venue l'idée? Et a posteriori, c'est vraiment une valeur ajoutée?
Alors, l'idée est venue très simplement, parce qu'en fait, Claude, le guitariste rythmique du groupe,
ouais,
a joué dans un groupe qui s'appelait Forsaken.
Mmh.
Forsaken World. Et il a fait une tournée avec Marduk, justement. Je ne sais plus pour combien de dates. 43 dates. Donc du coup, il a un peu sympathisé avec
Devo.
Le fameux Devo. Et du coup, donc, il a gardé le contact. Et il savait qu'il faisait justement du mastering. Donc pour le premier album, on avait déjà fait appel à lui. Et il a très rapidement compris la direction qu'on voulait.
D'accord.
Ça a été très très rapide avec Devo sur le premier album. Arriver à ce qu'on voulait. Donc on s'est dit, pourquoi changer une équipe qui gagne pour le deuxième album, autant rester avec quelqu'un qui nous fait le bon travail. Et pareil, ça a été super rapide sur le deuxième album, quoi.
D'accord, super. Non, c'est vrai que c'est un peu comme ça peut surprendre, mais quand on a l'histoire, on comprend pourquoi.
Ouais, c'est sûr qu'un bassiste de black metal, tu te dis, mais pourquoi est-ce qu'il va mixer du presque néo-metal?
Ouais, c'est ça. Donc, bon, tu te dis, mais bon. S'il est bon, il est bon. Et comme tu le mentionnais, comme vous êtes quand même très très fort, vous arrivez à préparer la sortie de l'album avec la sortie quelques semaines avant d'un gros blockbuster sur le sujet. Est-ce que tu l'as vu et qu'est-ce que tu en as pensé?
Moi je l'ai vu. Même Benoît, je sais pas si les autres l'ont vu, mais l'estomacé, c'est vraiment. Moi j'ai trouvé ça super. Le fait que ce soit un plan de séquence. Tout du long, c'est hyper immersif. Et en effet, ça parle exactement de la même chose que notre chanson The Messenger, qui pourtant a été composée, elle aussi, en 2018. Quoi.
Ouais, mais c'est un signe du destin, des fois.
Et c'est ça, voilà. Je pense que c'est ça. Ça devait être un signe du destin, ça devait sortir à ce moment-là. Et on s'est peut-être même dit que, ça se trouve, ils voulaient faire ça pour qu'on fasse un clip dessus, tu vois.
Mais...
C'est eux qui voulaient nous faire un petit clin d'œil.
C'est ça. Mais ouais.
Franchement, c'est une bonne claque, hein, super film.
Toujours sur le niveau visuel, comment vous avez bossé avec Crematorium?
C'est vu assez facilement parce que comme il avait déjà bossé avec nous sur le premier album,
ouais,
sur la première pochette, donc du coup, comme on avait été super satisfait, on lui a demandé est-ce que ça te dirait de nous faire la deuxième pochette, il a dit oui. Donc il nous a proposé, comme pour le premier, en fait, divers croquis sur les idées. On a tous validé l'idée du croquis de la grosse tête avec les petits personnages autour. Ça nous a tout de suite tous parlé. Et là où ça a été un peu plus long, c'est sur le choix en fait du rendu, parce que vous avez proposé quelque chose de coloré au début, un petit peu à la Apocalypse Now, tu vois, avec un coucher de soleil derrière la tête.
Ouais.
Et là, on s'est dit, non, ça peut pas aller, ça colle pas avec la guerre 14-18. Donc, il y a eu un débat entre sépia, noir et blanc, couleur, qui était assez vif dans le groupe, mais à la fin, on a dit, est-ce qu'on ose le noir et blanc? Et on s'est dit, ouais, il faut l'oser, parce que en noir et blanc, elle claque, quoi. Voilà.
Non, je crois que c'était le bon choix avec les couleurs un peu chaudes, etc. Ça aurait fait un côté un peu romantique, il y a pas quoi.
Ouais, c'est ça, voilà. Là, ça reste froid et froid comme la guerre, quoi. Enfin, nous, comme la guerre. Hein. Donc ouais. On s'en est rendu compte quand on a tourné le clip, justement pour les torts aussi. Quand on a passé la journée dans les tranchées, on s'est dit, on a bien fait choisir une pochette en noir et blanc, ça colle exactement à l'ambiance. Régner éventuellement dans les tranchées.
Alors justement, tu me fais la transition. Parle-nous de ce clip là, donc en costume, tourné à Massige et qui doit sortir début mars.
C'est ça, le 6 mars.
6 mars.
Donc, c'était un clip. Donc, comme on était sur cet esprit de guerre 14-18, Benoît nous a rapidement dit, moi je connais une association qui fait de la reconstruction justement avec des uniformes d'époque, tout l'équipement d'époque. Et on s'est dit, il faut qu'on trouve une chanson et qu'on mette cette personne-là en scène pour que vraiment on ait cette impression de vécu de la guerre 14-18. Et donc la chanson Letters to Sea s'est pété assez rapidement parce que elle est déjà potentiellement elle est un petit peu, on va dire, single.
Voilà.
Parce que ça se dit, mais ça ne pense pas s'y mais bon, voilà, elle est assez représentative quand même de ce qu'on fait et elle était assez facile à réaliser parce que bon voilà, on n'a pas un budget de Sabaton, on peut pas faire des explosions, des balles qui fusent, des bras arrachés, donc on s'est dit on va plutôt opter sur l'option les poilus, ce n'est pas que la guerre, c'était aussi de l'attente et c'est aussi des lettres qu'ils écrivaient, qu'ils attendaient de recevoir de leur bien-aimé qui était resté à l'arrière.
D'accord.
Donc,
à posteriori, c'est un bon souvenir ou c'est une grosse galère?
Non, c'était une expérience incroyable. Parce que franchement, l'association Les Poilus de la Marne, en plus d'être vraiment crédible esthétiquement, c'est des gens super intéressants historiquement. On a appris plein de choses. Ils nous ont, même Benoît, qui est prof d'histoire, a complété ses connaissances. Et on a appris plein de choses. Humainement, c'est des gens en or. Donc ça s'est vraiment passé nickel et ils adorent vivre, ils adorent ce qu'ils font. C'est-à-dire que se mettre en uniforme, reconstituer, montrer ce que ça a pu être, pour eux c'est une passion. Donc mettre en scène des gens dont c'est la passion, c'est un peu comme nous quand on fait de la musique. C'est-à-dire que nous quand on va faire de la musique c'est notre passion et on est content quand on est sur scène. Eux ils sont contents quand ils peuvent mettre en scène leur passion, quoi.
D'accord, bah écoute, super. Tant que ça répond aux attentes de tout le monde, c'est l'essentiel. Et donc juste pour terminer, qu'est-ce qui est dans les tuyaux là dans les temps qui viennent et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter?
Alors ce qui est dans les tuyaux, c'est déjà plusieurs dates qui vont arriver. On en a une le 21 mars à Nancy, le 27 mars à Thionville, le 4 avril à Dijon. Après, on va aller jouer à Limoges le 21 mai, si mes souvenirs sont exacts, le 23 mai à Lyon. Il y a d'autres dates qui ne sont pas encore officielles, mais qui vont arriver. Donc, ce qu'on peut nous souhaiter, c'est qu'on arrive à essayer de toucher le plus de public possible. Parce que nous, ce qu'on kiffe, voilà, c'est venir sur scène, jouer, et que les gens passent un bon moment. Donc, nous, c'est ça qu'on veut, c'est ça notre but. Après, les albums, c'est des... C'est un gros kiff, mais c'est un prétexte pour aller jouer, quoi, en fait.
D'accord, ouais, non, mais... Ça se comprend. Bah écoute, c'est en tout cas ce qu'on vous souhaite, et puis on se tient au courant, et puis on postera les différentes news sur le site.
Ok, bah pas de soucis.
Bonne soirée, merci pour tout, et à bientôt.
Ouais, merci beaucoup.
Ciao.